Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on se retrouve pour la dernière chronique, les gars. Et oui, la révolution quantique est à notre porte et c'est Microsoft qui nous offre cette nouvelle ère informatique. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on va plonger dans cette révolution. La puce quantique Microsoft a été mise en place. Oubliez les gadgets du quotidien. On parle d'un lien aussi colossal que l'arrivée des transistors qui a fait naître nos ordinateurs modernes. On va faire un petit récap histoire pour vous. Faut comprendre un truc, c'est que je fais un parallèle avec ça parce que je trouve que c'est intéressant de porter cette critique. Il faut savoir qu'à l'époque, les transistors, c'est les petites puces qui ont tout changé. Pourquoi elles vous ont changé? Parce qu'elles vous ont permis en fait, d'avoir, dans les années 40, les premiers ordinateurs portables. Et oui, à l'époque, c'était des ordinateurs de monstres. C'était des armoires remplies de tubes à vide, gros comme des ampoules, qui chauffaient, qui grillaient souvent et qui prenaient une place folle dans les ménages des citoyens en général. Et ben imaginez qu'une machine grande comme votre salon pour faire des calculs simples, c'est inutile. Et oui, car à la place d'une armoire, grâce au transistor, on a pu vous structurer et vous mettre en place des mini puces qui ont remplacé ces tubes et qui consommaient presque rien et qui se tenaient sur un ongle, sur un de vos ongles. Et ces résultats, ça vous a permis de rapetisser vos ordinateurs, de les rendre plus performants, plus rapides et abordables. Sans ça, pas de PC, pas de smartphone, rien qu'on connaît aujourd'hui. Et les puces Majorana de Microsoft, c'est du même calibre. C'est la même gain. C'est nommé d'après Edward Majorana, qui est un physicien visionnaire. Elle repose sur des quasi-particules qui rendent les qubits, c'est des bits quantiques, ultra stables. Là où les transistors ont démocratisé les calculs classiques, Majorana pourrait faire décoller l'informatique quantique avec des machines capables de résoudre en un clin d'œil, ce qui nous pourrait prendre une éternité. On a parlé un peu d'un bit quantique. Pour résumer un bit quantique, on va dire que c'est un petit cube qui est très chaotique. Je vais le vulgariser comme ça. Il y a plein de choses qui s'y passent et dans ces choses, on peut y retrouver des bonnes réponses et de la facilité de passage d'informations. Mais qu'est-ce qui rend du coup Majorana si spécial? C'est sa résistance au chaos. Car les qubits classiques, c'est comme un funambule, ça souffle un bruit et ça tombe. Et l'info part en fumée, tout disparaît. Le son est le pire ennemi des qubits classiques et Microsoft a contourné ça avec des tomos semi-conducteurs. C'est un peu complexe, mais pour faire simple, on a créé un binôme de qubits. C'est-à-dire que chaque qubit sont en duo. Et c'est comme deux gardiens qui protègent un trésor, ce qui est du coup la donnée, la data, l'information. Et pour les déstabiliser, il faudrait les frapper les deux en même temps. Et c'est impossible. C'est quasi impossible, je veux dire. C'est une prouesse qui est vraiment quasi impossible. Donc, plus besoin de frigo géant, plus besoin de descendre à des températures allant les moins 274,5 degrés Celsius, plus besoin d'hélium liquide. Ces qubits respectent la route toute seule. Imaginez des ordi quantiques compacts capables de simuler des molécules pour des médicaments ou de cartographier l'univers. Une puissance brute à portée de main, sans limite, et la seule utilisation sera votre imaginaire. Et oui, car l'IA et la cryptographie assez double tranchant, car ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait attendre, car l'intelligence artificielle, pour elle, ce genre de puce, c'est le jackpot. Avec des qubits solides, une IA pourrait réfléchir à un film de Spielberg ou même à une écriture complexe et novatrice en une seconde, ou modéliser des sociétés entières politiques, voire même économiques. Les simulations de conflits pourraient être mises en place, les résolutions de problèmes aussi pourraient être envisagées, être mises en place, tout serait sans limite. Tout pourrait être calculé, tout pourrait être déterminé, tout pourrait être prévu avec un très beau pourcentage de probabilité. Et tout ça, il y a un seul hic, c'est la cartographie. Ces machines pourraient craquer des codes actuels, en effet, le Bitcoin aux banques sur X, certains crient au chaos quantique, d'autres relativisent, le Bitcoin pourrait muter vers un hard fork, tandis que les banques traditionnelles, elles risquent gros avec cette révolution, car si je vous disais que les mots de passe qu'on connaissait conventionnellement à plus de 26 caractères différents pouvaient, avec habituellement nos ordinateurs et nos transistors conventionnels, pourraient être craqués avec 10 millions d'années, avec ce genre de composant, on peut le craquer en même pas 2 secondes, voire même 2 heures, voire même 3 heures. Donc je vous laisse imaginer comment la sécurité devrait être mise à jour et le piratage pourrait avoir une prédominance à l'échelle internationale. Ce qui est scotchant avec du coup Majorana, c'est aussi également la rupture, parce que plutôt de lutter contre le bruit quantique, Microsoft le détourne comme si on apprenait à surfer sur une tempête au lieu de construire un barrage. et une idée qui pourrait inspirer ailleurs la fusion nucléaire, par exemple, où on dompterait le plasma turbulent au lieu de les enfermer. Cette audace, ce regard neuf qui fait que Mariona est un pivot pour demain, questionne pour la discussion. Et oui, imaginez si des ordinateurs quantiques comme un homme peuvent tout calculer vite. Est-ce qu'on devrait leur confier des décisions importantes? Ou alors peut-être que le raisonnement humain, avec sa certaine lenteur, sa certaine disposition serait plus intéressante. C'est la question que je me suis posée et sincèrement, je n'ai pas réussi à trouver de réponse. Donc c'est pour ça que je vous la pose. Vous, selon vous, est-ce que si ce type de composant qui a une rapidité efficiente en termes de simulation, en termes de raisonnement, est-ce qu'on devrait peut-être chercher à évoluer sur cette nouvelle ère où tout va rapidement, comme on avait fait le parallèle avec l'information? Est-ce qu'on devrait trier l'information avec ce genre de composant pour mieux le structurer, mieux le créer, mieux le mettre en place et aussi ne plus perdre le détail et avoir tout concrètement? Ou alors peut-être que nous devrions un peu freiner ces innovations et chercher à maintenir et garder comme un trésor et une prompteté le raisonnement qui peut être lent vu de cette période-là, mais peut-être beaucoup plus intéressant sur certains points, qui est le raisonnement humain. Question ouverte à vous.
Ouais, je pense qu'on n'est pas encore rendu, en fait, à la... C'est la première ordinateur.
C'est pas un ordinateur, c'est vraiment...
Mais Microsoft n'avait pas promis qu'il allait faire le premier ordi quantique disponible sur le marché.
C'est pas encore en place, l'ordinateur quantique. On est encore en phase de théorique, mais avec ce genre de composants, on s'en rapproche très grandement.
Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu là. Je pense que... j'aimerais ça dire, on va le voir arriver un peu plus. C'est tout le temps ça, mais tu sais, il va y avoir des révolutions technologiques comme avec ce qu'on a vu. Internet et tout ça... Ça a été lent, tu sais, mais ça a été super rapide. Nos législations ont encore de la misère à s'adapter. Ça va être la même chose avec ça.
C'est ça la question.
Ouais, mais on sera pas capable de gatekeep. Microsoft.
En fait, faut se rendre compte.
Penses-tu que Microsoft va se faire empêcher de vendre ses ordinateurs quantiques?
Je vais t'expliquer un truc très simple. C'est des puces. Et ce qu'on en parle là, c'est une puce. En fait, dis-toi que.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que
si
mettons, dans
tu
le
donnes
futur,
ça à un ménage conventionnel, avec un minimum de connaissances, techniquement, je craque tous les portefeuilles de n'importe quel utilisateur que je trouve. Sachant, moi, si vraiment je me situe dans un esprit machiavélique, je parle sérieusement. J'irai du coup sur Binance, je rechercherai du coup les traders à suivre, je ferai une topologie et topographie totale d'un des mecs que je vois avec le plus gros temps de réussite et avec le plus d'abonnés. Je traquerai, j'essaierai de retrouver un de ces casiers ou de ces versions d'identité, ce que tu peux avoir accès sur certains sites sécurisés, on va dire, où c'est très facile de récupérer les cartes d'identité. À partir de ça, si j'ai ce type de composant, craquer son portefeuille, ça se fera en 2 heures. Et il faudra juste que j'attende un stade de sécurité en croisant les doigts pour que, du coup, il ne voit pas dans ses mails que j'ai accès à ses comptes et qu'un nouvel appareil s'est connecté à ses comptes Binance ou autre. Et à partir de ça, en fait, j'ai son compte, j'ai tout.
Ouais.
Et j'ai son portefeuille aussi.
L'idée, c'est que je pense qu'avant que les particuliers l'aient, c'est les entreprises qui vont avoir accès à ce genre de technologie-là.
Mais du coup, les entreprises, alors, peuvent également mettre et structurer en place ça aussi. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais.
Et il ne faut pas oublier que le piratage industriel existe. Donc, ça omet aussi certains risques. Il y a des gens qui parlent, comme je t'ai dit, d'un chaos quantique. Parce que si ce genre de composant est ouvert aux yeux de tout le monde et que certaines personnes s'y connaissent et ont des attentions malvoyantes, ça peut aller très loin et très vite. On peut avoir vraiment une fin complète des structures financières qu'on connaît. Si tu mets ça au niveau... là, on parle de crypto, on parle de cartographie. Ça peut aussi... suffit aussi de placer ce genre de puce dans les setups de minage de crypto-monnaie et tu digitalises un bitcoin très facilement. Alors qu'il faut savoir un truc, en un mois, tu arrives à miner 0,00000, etc. Bitcoin, là, tu pourrais en faire un ou deux toutes les 3 heures. Tu vois, tu te fais un Bitcoin toutes les 3 heures, c'est-à-dire que tu te fais 80 000 euros toutes les 3 heures. Tu t'attaques à des systèmes de sécurité banquiers basés sur des doubles authentifications, tu les passes très facilement. Tu peux aussi geler ou bloquer ou redirectionner des transactions bancaires conventionnelles très facilement. L'euro digital, qui je ferai un parallèle avec ça, verrait du coup son système de suivi bancaire totalement biaisé, totalement détruit. Et ça fait qu'à la fin, il suffirait que quelqu'un s'amuse à mettre les mauvais chiffres pour que tout un système économique s'écroule. Donc c'est un outil à la fois très innovant sur la pointe de technologie qu'il offre, mais aussi très dangereux en vue de la rapidité qu'il a. Aussi, il faut comprendre un truc, c'est que si tu t'achemines à faire de la simulation poussée avec ce genre d'outil, qu'est-ce qui nous dit que la réponse est foncièrement vraie ? Car il y a toujours la partie théorique, mais la partie expérimentale est la plus importante. Et pour ce genre de phase-là, on ne peut pas être sûr que ce genre de puce nous permettrait vraiment de créer une modélisation ou des simulations. Je parle simulation, c'est imaginons que je souhaite reproduire un système économique de tel pays pour voir comment il évolue si je paramètre telle guerre, telle guerre, telle guerre. C'est ça que je parle quand je dis simulation.
On pourrait imaginer qu'il reconstruit des scènes de crime au grand complet.
Mais par exemple, je te donne un exemple tout simple. Grok, c'est Grok 3 et la version 6 de Grok utilisent un peu de composants quantiques sur leur base de serveur. Tu demandes à Grok de te faire un jeu vidéo, il t'en fait un.
Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de dans quelles mains que c'est donné aussi, cette technologie-là, cette puissance-là. On voit aussi, là tu parles de la puce de Microsoft, mais quelques jours après, la Chine a dévoilé qu'eux aussi, ils ont sorti leur puce, là, le Zhuchongzi 3.0, qui est le prototype là, de puce quantique aussi. Donc, c'est une guerre de technologie, mais c'est une guerre aussi entre les grandes puissances. Déjà qu'on voit, par exemple, la Russie, l'Inde, des gros pays comme ça qui influencent les élections du côté de l'Occident. Donc, si on leur donne encore plus de technologies, est-ce que ça devient encore plus facile à ce moment-là d'influencer du côté des élections, du côté, comme on parle de finances, mais...
Faut se dire un truc, c'est qu'on potentiellement peut arriver aussi à un stade où c'est tous les secteurs d'innovation qui sont changés. Je parlais d'économie, de politique et autres, mais aussi je peux vous parler aussi de santé, de pharmaceutique, de médecine, de médical. On peut simuler les actions de molécules, d'enzymes dans un organisme humain, reproduire l'organisme humain dans toute sa complexité et prolonger les tests à des microsecondes et des nanosecondes, à des centièmes de milliers de secondes. C'est-à-dire que je peux produire je peux simuler une population de 1 million de personnes. J'ai des chiffres comme ça de tête, mais c'est totalement plausible en vue des résultats déjà qu'ils ont eu dans leur publication de thèse et de brevet technique. Tu peux arriver à simuler l'équivalent d'1 million de personnes avec des organismes différents et tu appliques le même médicament. Et tu peux te faire une idée de comment ça marche. Tu peux te faire une idée, du coup, théoriquement, tu peux te faire une idée de l'influence de ton médicament sans passer par des phases de test. Donc, tu peux omettre des risques de réponse à risque auprès des patients. Tu peux également pousser aussi cette simulation à des limites tellement incroyables que tu pourrais aussi simuler à la... Tu sais que, je vais donner un exemple, il y a des phases expérimentales où des gens font des études avec des enfants où ils leur donnent des compléments alimentaires pour voir s'il y a tel avantage en vue de leur développement. Tu n'as plus besoin d'utiliser des enfants. Pour ça, quand je dis utiliser des enfants, c'est signé dans les accords, c'est des accords très précis, on évite au maximum le risque, c'est vraiment observer l'évolution et la croissance en vue de l'accompagnement de certaines vitamines ou de compléments alimentaires. Mais parallèlement à ça, si tu pousses vraiment le délire loin, tu n'es plus limité par les besoins humains. Je résumerai à ça. Tu n'es plus limité par les besoins humains ou les besoins matériels. Tu peux simuler tout ça, le créer.
Mais est-ce que les dangers sont plus forts que les bénéfices un peu présentement? C'est reste ça ma
voir,
question un peu. Là.
Reste à voir du coup...
S'il y a quelqu'un qui, mettons, du jour au lendemain, développerait un... Et sur, comme ça, là. De même, puis là, il pourrait l'utiliser. Là, ça serait peut-être dangereux parce que lui, là, il n'y a pas de barrière pour lui. Là.
Il n'y a pas de barrière. Ça peut être en fait à la fois une arme comme un outil. Je dirais qu'un outil, c'est comme un couteau. Tu peux cuisiner avec, comme couper des gens avec, tu vois. Mais au-delà de ça, ça reste
Sauf qu'au lieu d'être un petit couteau, sabre laser en plasma qui est capable de couper la lune en deux, tu sais.
Avoir la législation qui sera portée sur ça. En tout cas, sur un point d'innovation, c'est un véritable séisme, cette puce. Et comme disait Alan Turing, si tu veux révolutionner le logiciel, fabrique ton matériel. Microsoft a écouté et ça a frappé fort. Simulation pour guérir, plongée cosmique, IA créative, le futur s'ouvre en grand. Sur X, on parle, comme j'ai dit, de science-fiction réelle, où le défi est à cadrer avant tout. Et une chose est sûre, on vit à l'aube d'une nouvelle ère palpitante. Merci d'avoir suivi en tout cas l'émission 9 et on vous laisse avec une dernière pause pub et on se retrouvera du coup demain et la semaine prochaine également avec la même équipe. En tout cas, salut et profitez.